enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Si vous avez votre Bible, regardez avec moi Nombre chapitre 20, en préparation pour la Sainte Cène. Dans quelques instants, comme vous le savez, nous allons prendre la communion. Et en préparation pour la communion, nous allons regarder un passage en Nombre chapitre 20. Si vous n'avez pas votre Bible, le passage va être sur l'écran. C'est un passage énigmatique. Nombre 20 est un passage mystérieux, énigmatique, qui suscite parfois des questions au sujet du caractère de Dieu. Quand on lit Nombre 20, des fois, on questionne un peu les décisions de Dieu. On questionne même le caractère de Dieu. Et à première vue, ce n'est pas un passage typique de la communion. Hein, nous voulons préparer nos cœurs pour la communion, mais on dirait, ce n'est pas un passage typique pour la communion ou un passage typique au sujet de la croix, mais vous allez voir le lien dans quelques instants. Nombre chapitre 20, c'est le peuple d'Israël qui apporte une plainte à Moïse. Encore. Une autre plainte à Moïse. Et on va lire le texte ensemble, Nombre chapitre 20, sinon c'est sur l'écran. Versets 5 à 12. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous emmener dans ce méchant lieu? » Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est littéralement la tente de la rencontre. C'était le lieu de la prière. Ils ont dit, face à cette plainte-là, on va aller prier. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, le bâton, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, et vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Alors Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, jusqu'à date qu'il écoute les instructions de l'Éternel. Il prit la verge, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Jusqu'à date, ça va bien. Ils suivent exactement ce que l'Éternel avait demandé de faire. Mais après ça, Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles! » Il est frustré. « Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse, au lieu de parler au rocher, il leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Ça marchait. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux d'Israël, d'enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Le peuple se trouve, donnez contexte un peu, le peuple se trouve dans un lieu méchant. Combien ont déjà passé par un lieu méchant? Hein? Combien sait de quoi qu'il parle? Hein, vous avez déjà passé par un lieu méchant. C'est une bonne description des périodes dans nos vies des fois, ou des moments dans nos vies, où nous avons l'intention qu'on passe par un lieu méchant. Moi, j'ai déjà passé par des lieux méchants. Des lieux et des moments tough, difficiles, ardus. Et si vous avez déjà visité Israël, qu'on connaît fait il y a quelques semaines, vous pouvez mieux comprendre leurs plaintes, vous pouvez mieux comprendre leurs soucis et leurs fatigues. Parce que les lieux d'Israël, c'est des lieux vastes, arides, tous les déserts d'Israël, c'est montagneux, c'est chaud, vide, stérile et rempli de bêtes sauvages. J'ai quelques images sur PowerPoint ici du désert d'Israël, qui était très typique. C'est ces endroits-là. Quand ça parle du peuple d'Israël dans le désert, c'est ces endroits-là. Qu'est-ce que nous voyons sur l'écran ici? C'est littéralement les déserts d'Israël. Vous voyez comment c'est sec, c'est montagneux, c'est rocheux. C'est un lieu difficile. Très beau à voir, très beau à visiter, mais misérable à vivre pour 40 ans. Comme on dit en anglais, « Nice place to visit, but I wouldn't want to live there. » Hein? C'est bien à visiter, mais on ne voudra pas vivre dans le désert. Voilà, nous avons le peuple d'Israël qui vit dans un terrain, comme qu'on voit sur l'écran ici. Et c'est un terrain qui appelle un lieu méchant. Ça, c'est la description du peuple d'Israël pour ce lieu. C'est méchant ici. C'est douloureux. C'est difficile. Voici comment Deutéronome le décrit, cet endroit-là. Deutéronome 8, verset 15, le décrit de cette façon. « Ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, non seulement que c'est grand, c'est affreux, c'est aride, mais c'est dangereux. Il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau. » Là, le peuple d'Israël, dans cet endroit-là, dans ce lieu méchant, nous avons deux choix quand on se trouve dans un lieu méchant comme ça, où il y a des serpents et des scorpions. Peut-être pas littéral, mais figuratif. Des choses douloureuses. C'est un endroit douloureux, difficile, dangereux, sec. On a deux choix quand on se trouve dans un moment où on a l'impression qu'on ne produit pas. Comme qu'il disait, il n'y a pas de figuier ici, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de grenadier. On a l'impression qu'on tourne en rond, on ne porte à rien, on ne produit rien. C'est sec, c'est la futilité, on n'avance pas, on tourne en rond, aucun fruit. C'était un lieu de mauvaises nouvelles, c'était un lieu d'une parole, comme une parole qui nous fait mal, un peu comme un serpent et un scorpion. Serpent et scorpion, ça représente la douleur, quelque chose qui pique, quelque chose qui empoisonne, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est dangereux. Puis on a tous passé des moments dans notre vie où ce qu'on reçoit, c'est soit une circonstance, ou c'est une mauvaise nouvelle, ou c'est une période sec qu'on passe en travail dans notre vie, qu'on a l'impression, un peu comme le peuple d'Israël, c'est un lieu méchant dans lequel on est, c'est une période de fatigue, on a l'impression comme si on est en train de traverser le désert à pied, et on a une fatigue spirituelle. Ça nous arrive tous, peut-être qu'il y a quelques personnes ici ce soir, vous dites, c'est moi ça! Je passe un lieu méchant en ce moment. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression de passer une période sec. Ça nous arrive tous. On a deux choix, deux options quand on passe un lieu méchant, douloureux dans notre vie. Deux choix. On peut se plaindre ou on peut prier. On peut se plaindre, comme on fait le peuple d'Israël. On peut critiquer, murmurer, abandonner. On peut vivre dans la nostalgie des bons vieux temps. Puis en passant, les bons vieux temps n'étaient pas si bons que ça, en général. Nostalgie, réflexion, misère, critiquer, murmurer, se plaindre, ou on peut prier. Comme on a entendu ce matin, Pierre et Judas, ils ont passé par des lieux méchants, des moments douloureux, des moments difficiles. Il y en a un qui a abandonné vers sa destruction, mais un autre qui a prié dans la chambre haute et a obtenu une délivrance. Deux options à faire, deux options devant nous quand on passe un lieu difficile. Se plaindre, abandonner ou prier. Et ici, dans cette histoire, comme d'habitude, le peuple se plaignait et Moïse priait. Et par la suite, après sa prière, on découvre des choses par rapport à Dieu. Les événements après sa prière nous démontrent des choses par rapport à Dieu et par rapport à Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'on apprend de Moïse après cette prière-là? Moïse, malgré qu'il est un homme de Dieu, malgré qu'il est l'homme le plus humble sur la face de la terre, malgré qu'il a vécu des moments face à face avec Dieu, malgré qu'il était un homme de prière et de la présence de Dieu, Moïse n'était pas parfait. Il est sorti du lieu de la prière, puis a fait une erreur. Ce grand homme de Dieu n'était pas parfait. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça m'encourage. Il y a encore de l'espoir pour mon épouse. La dernière fois, j'ai gagné des points. Ce soir, je perds des points. Mais elle est ici en arrière, hein? Je ne pars pas en arrière de son dos. Il y a encore l'espoir pour moi. C'est pas mon épouse qui a dit « Amen ». Mon épouse est en arrière et dit « Moïse, malgré tout ce qui est passé à travers, malgré tous ses exploits, sa spiritualité et tout, a quand même fait une erreur. La colère a marqué la vie de Moïse au début de son appel. Au début de son appel, la colère, qu'est-ce qu'il a fait dans sa colère? Il a tué un Égyptien avec ses propres mains. La colère a marqué le début de son appel et la colère marque la fin de son appel. Il débute son histoire de la colère, il termine avec la colère. Parce que dans la colère, il dit, gang de rebelles, paf! Puis dans un moment de colère, il frappe le roc. Il y avait un problème avec la colère, le début et la fin. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cela? La spiritualité n'égale pas l'absence de la présence ou la possibilité de pécher, même après des années. Quand je vois ça, puis je dis, Moïse vient de sortir d'un lieu de prière. C'est un homme de communion, c'est un homme de courage et de grand exploit, et le péché était quand même présent dans sa vie. Il y avait quand même la possibilité de pécher. Et c'est pour ça qu'il faut toujours prendre garde. Peu importe le nombre d'années qu'on a dans l'Église, si on ne prend pas garde, il y a toujours une possibilité que le péché est là. Il y a toujours la possibilité de tomber. Et quand je vois ça, je dis, il faut toujours qu'on prenne garde. Comme nous dit l'apôtre Paul, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir, quand on prend la communion, c'est un moment d'examen, c'est un moment de réflexion, c'est un moment où on ne prend pas pour acquis notre spiritualité, pour dire, oui, mais ça fait assez longtemps que moi j'étais à l'église, moi j'étais un diacre, un ancien, un leader, un pasteur, moi je suis né dans une famille chrétienne, moi le péché, puis tomber, tout ça, c'est toujours une possibilité, puis parce qu'on sait que c'est une possibilité, même pour quelqu'un comme Moïse, on veut bien prendre la communion, bien réfléchir, bien s'attacher au Seigneur, bien veiller et prier et prendre garde, parce que nous voulons pas mal terminé. Est-ce que tu peux entendre en amène à cela? C'est toujours une possibilité. La spiritualité n'égale pas l'absence de la possibilité de pécher. La Bible est claire là-dessus. Deuxièmement, ça nous enseigne que la spiritualité n'égale pas non plus l'absence des problèmes. Moïse était un homme spirituel, puis il y avait un paquet de problèmes. Juste parce qu'on est spirituel ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. Moïse avait des problèmes avec son frère, des problèmes avec sa sœur, des problèmes avec sa congrégation, des problèmes avec son épouse. Il a vécu même une séparation dans sa vie à un moment donné. Même Dieu voulait tuer Moïse à un moment donné. Ça fait toute partie de l'histoire de Moïse. C'est un homme de surcharge de travail et un homme de colère. Et ici, nous voyons Moïse, malgré toutes ses grandes qualités, malgré tous ses exploits pour Dieu, malgré son courage, son intimité avec Dieu, par sa désobéissance dans cet instant ici, Moïse paye l'ultime prix. L'ultime prix, il est expulsé de la terre promise. Imaginez, il arrive juste à la fin de sa vie, juste à la fin de son ministère. Après tout ce qui est passé à travers avec le peuple d'Israël, il est juste à la porte de la terre promise. Il peut goûter la terre promise, il peut sentir la terre promise, et par un acte de désobéissance, il est interdit, il est expulsé de la terre promise. Un peu comme Zinedine Zidane, pour ceux qui ont gardé le match. La Coupe de France, un légende français, un homme légende, mythique, de grand homme de sport, juste à la fin du match, par un moment de colère, pour ceux qui n'ont pas vu, ça c'est un légende, un exemple, un modèle, c'est vraiment l'athlète vedette de la France, juste à la fin du match, par un coup de tête, par un coup de colère, il frappe quelqu'un avec sa tête, et juste à la fin de sa carrière, ça va être le dernier match pour cet homme-là, le légende, et juste là, sur l'estrade mondiale, comme ça, globale, dans un coup de tête, il fait quelque chose, et là, il paye le prix ultime. Il est expulsé du match. Il ne peut même pas terminer son dernier match de la Coupe du Monde par un coup de tête. C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse. Pour une raison ou l'autre, cet homme légendaire, cet homme héros, super-héros, grand homme de spiritualité, par un coup de tête, par un coup de colère, à la fin de son ministère, il paye le prix ultime. Il est expulsé de la terre promise. Dieu dit, parce que tu as frappé le roche et t'as pas parlé au roche, comme je t'avais dit, je t'interdis, tu rentreras pas dans la terre promise. Un peu comme l'arbitre, il a sifflé, puis a dit, carte rouge, expulsé. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Il a payé le prix ultime. À la fin de sa vie, il a manqué la cible. Il a raté sa destinée. Il a passé à côté. Après tout ce qu'il a passé à travers pour arriver à la terre promise, après tout avoir dirigé son peuple vers leur destinée, juste à la fin, il manque. Il manque la cible, le but, par un acte de colère et d'impatience. Sois honnête avec moi. Combien ils trouvent que Dieu est injuste ici? Come on, sois honnête. Come on. Combien ont déjà lu ce passage-là puis dit Dieu, Dieu, Dieu? Hey, c'est dur. Come on. Ah, mais on comprend Dieu des fois, mais des fois on ne le comprend pas. Après tout ce que Moïse a passé en travail, Moïse les emmène jusqu'à cette destinée-là. Il a vécu 40 ans dans le désert. C'est un homme de grand courage, d'exploit, d'intercession. Il a payé le grand prix. Il a abandonné l'Égypte et les richesses d'Égypte pour s'identifier avec le peuple d'Israël. Et on dit, Dieu, t'es un peu injuste. Tu aurais pu trouver une autre punition, un peu trop sévère. Il exagère un peu dans sa punition. On a l'impression que Dieu la pénalise au-delà de ce que Moïse mérite. Et il dit, il exagère. Dieu! Moïse arrive à la porte de sa récompense, puis il perd patience. C'est tout. Il insulte le peuple et il frappe le roc dans un instant de colère, et la porte est fermée. Sévère à l'extrême. Oui ou non? Hein? Il dirait, donc, donnez une chance. Après tout ça, il ne peut pas rentrer par un acte d'impatience. Surtout quand on pense à tout ce que Moïse a passé à travers. Vous avez déjà rencontré quelqu'un âgé qui est devenu un peu impatient? Un peu grognon, un peu bourru? Moïse avait plus que 110 ans. Moïse avait plus que 110 ans et ça faisait 40 ans qu'il se promenait dans le désert avec un gang de peignards. On pourrait dire, c'est certain qu'il est impatient. C'est sûr, rendu à cet âge-là, moi aussi je serais un peu impatient puis colérique. Oui ou non? Mais aucune grâce. Dieu lui donne aucune grâce. Aucune possibilité de rentrer. Moïse paye l'ultime prix pour sa colère. Alors, on apprend quelque chose au sujet de Moïse. Il n'est pas parfait. Mais on apprend quelque chose au sujet de Dieu aussi. Parce qu'à première vue, on dit Dieu est injuste. Il exagère, là, avec Moïse. C'est pas correct. Un acte de colère, puis il manque tout ça. Mais on apprend que Dieu est très sérieux face à sa réputation. Dieu est très sérieux face à son image. Dieu est très sérieux face à l'image de lui qu'on reflète ou on communique aux autres. Surtout l'image de la croix. Nombre 5, verset 12, on le lit encore, il dit, parce que vous m'avez pas sanctifié, vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Ça va faire avec représentation, ça va faire avec image. Dieu est en train de dire à Moïse, qu'est-ce que t'as fait, Moïse? C'est plus grave qu'un coup de colère. C'est plus grave qu'un coup d'impatience. C'est parce que ça a à faire avec l'image. La raison que Dieu a traité Moïse sévèrement est par rapport à la croix. Parce que sans savoir, Moïse, par sa désobéissance, il a gâché l'image de la croix. Il a gâché le portrait de la croix. Il a mal représenté Dieu. Dieu avait une raison précise pour laquelle il a demandé à Moïse de tout simplement parler au rocher. C'était un but précis. Il y avait une image qu'il voulait communiquer. Et là, quand Moïse, dans sa colère, il a frappé le roc au lieu de parler, il a gâché l'image. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Le roc que Moïse a frappé n'était pas rien qu'un rocher dans le désert. Le roc que Moïse a frappé symbolisait Christ. C'était symbolique de la croix. Dieu voulait que Moïse présente la croix au peuple. Il voulait qu'il présente la grâce au peuple. Et à la place, il a présenté la colère, la loi, l'homme. C'était une image de la croix qu'on voit ici en Nombre chapitre 20, et Moïse venait tout gâcher l'image de la croix. Dieu prend au sérieux la façon qu'on traite la croix, la façon qu'on communique la croix, ce qu'on fait avec la croix. Et Moïse, c'était pas un acte de colère. Si c'était juste un acte de colère, on aurait dit, ben là, Dieu t'exagère. Mais non, il a gâché la croix! Mal représenté la croix. Je m'explique. La première fois, parce qu'il va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec la croix, ça, le roc, parler, frapper? Je m'explique. La première fois que le peuple avait soif, suis-moi ici. La première fois que le peuple avait soif, on trouve l'histoire en Exode, chapitre 17, où ce que le peuple encore, il dit, on a soif dans le désert. Et cette fois-ci, Moïse est demandé de frapper le roc. Il frappe la première fois, il parle la deuxième fois. Exode, chapitre 17, versets 5 et 6. Ça, c'est la première fois, mais presque même histoire. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Okay? Ils ont soif, alors passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge, un peu comme la dernière fois, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le mot clé ici, puis la signification est clé ici, ce n'est pas juste le fait que Moïse était pour prendre le bâton et frapper le rocher. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quelque chose d'un peu de bizarre. Il dit, Moïse, tu vas frapper le rocher, mais avant que tu frappes le rocher, moi, je vais me mettre entre toi et le rocher. Ça veut dire que quand tu frappes le rocher, tu vas frapper moi en premier. C'est moi que tu frappes. C'est Dieu que tu frappes. Et tu vas frapper Dieu. Et quand tu frappes Dieu, l'eau va couler dans le désert. Ça, c'est l'image de la croix dans l'Ancien Testament. C'est un type de la crucifixion et de Christ. C'est la raison pourquoi on prend la Sainte Cène. Parce que Dieu a été frappé par l'homme une fois. Et maintenant, nous avons accès à la puissance du Saint-Esprit et l'eau vive qui coule dans le désert. Moïse a frappé Dieu et là, l'eau a coulé dans le désert. C'est la croix et la puissance du Saint-Esprit parce que le roc dans le désert était Jésus. Et Moïse, l'homme, a frappé Jésus dans le désert et c'était un avant-goût de la croix. Et ce soir, nous sommes là pour célébrer le fait qu'il y a 2000 ans, l'homme a frappé Jésus encore et quand l'homme a frappé Jésus, il y avait un fleuve d'eau vive qui a coulé de la croix pour donner l'eau à boire à toute l'humanité pour nous rafraîchir dans le désert. C'est la croix. Je ne peux pas entendre amen à cela. Jésus est frappé par l'homme et l'eau coule dans le désert. 1 Corinthiens 10, 1 et 4, l'apôtre Paul, il fait cette typologie-là. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, ça veut dire le peuple d'Israël, ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et ils ont tous mangé le même aliment spirituel, écoutez bien, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Il parle du peuple d'Israël, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Moïse, en Exode 17, il a frappé Jésus. L'homme frappe Dieu. Ça, c'est la croix. Jésus, il y a 2000 ans, a été fouetté, frappé, battu avec une épée de couronne. Il avait une épée dans son côté. C'est l'homme qui frappe le roc. L'homme qui frappe Christ. Et par l'homme qui frappe Dieu, il y a de l'eau qui coule dans des airs. Ça nous donne la vie et le rafraîchissement. C'est l'eau qui a coulé dans les yeux arides. C'est la vie, le fruit, la bénédiction. C'est pour cela que Moïse, là, on revient à Nombre chapitre 20. C'est pour ça que Moïse a été demandé de seulement parler au rocher la deuxième fois. Il a dit, cette fois ici, tu ne frappes pas le rocher, tu n'as rien qu'à demander. Tu n'as rien qu'à parler, c'est tout. Il dit, si tu parles, il y a l'eau qui va couler du rocher. Pourquoi? Parce que le roc a déjà été frappé. Ce n'était pas nécessaire de frapper deux fois. Pourquoi? Parce que le roc, c'est Jésus. Exode 17, c'est la croix. Et Dieu voulait présenter la croix pour dire, le roc est frappé une fois. S'il y a une crucifixion, il y a un prix à payer, il y a juste une fois que Jésus est mort, et après ça, nous n'avons rien qu'à parler. Il n'y a plus de prix à payer, on a rien qu'à demander, à parler, puis il y a de l'eau en abondance pour tous nos besoins. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est la croix! C'est le message de la croix! C'est pour ça que Dieu l'a pris au sérieux. C'est pas juste un coup de tête, là. C'est pas Dieu qui est sévère avec Moïse pour dire, là, que t'as perdu patience à 110 ans et là, tu vas pas rentrer dans ta promise. Non! T'as gâché la croix, Moïse! Parce qu'on sait pas nécessaire de frapper encore et encore et encore. Jésus a été frappé une fois pour tout le monde, pour toute l'humanité, pour tout le temps. On n'a plus rien à faire que demander et nous avons la plénitude, la puissance de la guérison et le salut et le pardon et la délivrance et le rafraîchissement du Saint-Esprit juste pour demander. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Jésus a payé le prix. C'était la croix. C'est l'histoire de la croix. Exode 17, Nombre chapitre 20, c'est l'histoire de la croix. Il reste rien que plus à demander, parler tout simplement. C'est pour cela que Jean 17, Pasteur Claude l'a tellement bien illustré l'autre dimanche matin, quand Jésus, le dernier jour, Jean 7, 37, c'est pour ça que Jésus a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria pour que personne le manque. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, parce que moi je suis le rocher qui est frappé par l'homme, et maintenant il y a l'eau qui coule dans les yeux arides, dans les lieux méchants. » C'est pas nécessaire de demeurer dans un lieu méchant, parce que si vous demandez, il y a de l'eau pour vous ce soir, pour vous sortir du lieu de méchant, pour vous rafraîchir dans les terres arides, pour enlever la douleur, pour donner la guérison. Vous passez un moment où vous ne portez pas de fruits, soyez remplis du Saint-Esprit et il va avoir le fruit qui va pousser en masse et en abondance. C'est le message de la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ce message de Jésus. Bois. Le Saint-Esprit est disponible, l'abondance, la vie, le fleuve dans le désert, la solution pour le lieu méchant, pour celui qui demande. Point! Vous n'avez rien que demander. Ce qu'il a dit, Moïse, parle! Parle au rocher! C'est rien que ça qu'il faut faire. C'est la solution. Demande, point. Vous n'avez rien faire de plus. Vous ne pouvez pas le mériter, gagner, acheter. Est-ce que le peuple méritait la bénédiction? Non! Est-ce qu'il méritait avoir une réponse pour les fleuves dans le désert? Non, il ne méritait pas. C'est vrai, parce qu'ils avaient critiqué, ils sont pleins, et ils ont critiqué, murmuré, ils ne méritaient pas. Est-ce qu'il méritait d'être appelé une gang de rebelles? Oui, parce qu'en grande majorité, il était. Est-ce qu'il méritait la verge, être frappé? Oui. Mais c'est justement le message de la croix. C'est le message que Dieu voulait communiquer. Le message de la grâce. La grâce, on ne reçoit pas ce qu'on mérite, qui est le jugement, mais on reçoit ce qu'on ne mérite pas, qui est la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas ça merveilleux? Combien sont heureux pour la grâce? Merci Seigneur pour la grâce. La grâce, je ne reçois pas ce que je mérite, et je reçois ce que je ne mérite pas. Ça, c'est le message de la croix. C'est ce que Moïse, c'est ce que Dieu voulait communiquer. La grâce, la faveur de Dieu non méritée. Dieu qui bénit un peuple qui ne la mérite pas et l'eau coule dans des airs. Simplement par la demande, parce que le prix est déjà payé. Mais Moïse a gâché la signification de la croix. Par sa colère, il a mal représenté la croix. Il a mal représenté la grâce. C'est pour ça qu'il était puni sévèrement. C'était pas une injustice. Ce n'était pas Dieu qui voulait juste être misérable et sévère avec Moïse, parce que Dieu prend au sérieux la croix, le message de la croix, l'image, son image, ce que nous faisons avec la croix. L'apôtre Paul a compris cela. On n'a pas le temps de lire tout de suite, on va lire juste avant la Sainte Cène, mais vous connaissez les instructions et le passage qu'on lit presque à chaque fois avant de prendre la communion. En 1 Corinthiens 11, 23 à 29, l'apôtre Paul est très sérieux quand il parle de prendre la Sainte Cène. Il dit, sinon, on peut passer à côté. Sinon, on peut vivre un jugement. Sinon, on va manquer la cible. Il dit, si vous n'examinez pas, si vous n'arrêtez pas, si vous ne prenez pas votre temps, si vous prenez la communion d'une façon indigne, si vous ne portez pas attention comme Moïse a fait, vous allez manquer la cible. Vous allez manquer vos possibilités. L'apôtre Paul a dit, quand vous prenez la communion, quand vous pensez puis réfléchissez sur la croix, il faut le faire comme il faut et comprendre que Jésus a payé le prix une fois pour toutes afin que moi je suis pardonné, purifié, sanctifié, libéré, et je vais marcher digne de la croix pour pas rater ma destinée, la terre promise en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a bien compris cela. C'est pour ça que 1 Corinthiens 11, c'est un passage qui donne des instructions très, très attentionnées. Fais attention, il dit, fais attention! Dieu prend la croix au sérieux. Le message de la croix, la puissance de la croix, c'était pas pour condamner, au contraire, c'était pour comprendre. Examinez votre cœur, votre vie. Puis l'apôtre Paul dit, c'est le moment pour parler. Vous avez un besoin, parle maintenant. Jésus a payé le prix. Demande, prie. Reçois votre pardon, reçois votre guérison à la lumière de la croix. Votre repentance, reçois ce que vous avez de besoin. Parce que la croix n'est pas la religion, des rites, des règles, la loi, le légalisme, mais c'est la grâce, les possibilités, l'espérance, c'est d'avoir accès à la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas ça merveilleux? Ça, c'est la croix. Dieu a permis que l'homme le frappe afin que l'homme soit sauvé. N'est-ce pas ça la grâce, ça? Hein? Moïse frappe Dieu. Et là, c'est l'homme qui reçoit les bénéfices. Ça, c'est la croix, ça. C'est le paradoxe, c'est le mystère de l'Évangile. L'homme frappe Dieu et Dieu bénit l'homme. Ça, c'est la grâce. C'est Jésus sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La grâce. L'eau qui coule dans le désert. La grâce, le mot hébreu hanan, qui veut dire de combler, descendre pour aider, relever un supérieur envers un inférieur. 250 fois, on le voit dans l'Ancien Testament. 100 fois, on voit le mot grâce dans les lettres de l'apôtre Paul. Le grand écrivain C.S. Lewis, quand il y avait une discussion avec des grands hommes de religion et de divinité, il faisait un débat sur qu'est-ce qui séparait le christianisme de toutes les autres religions mondiales. Et C.S. Lewis, quand il est rentré dans la pièce, dans la salle, il a dit, ah, c'est facile la réponse à cette question-là. Qu'est-ce qui sépare le christianisme de toutes les autres religions mondiales? C'est une chose, la grâce. Parce que pour le christianisme, il n'y en a pas 10 étapes vertes ou 5 prières à faire ou 10 règlements pour atteindre la spiritualité ou 12 lois pour atteindre le nirvana. Il n'y a rien qu'une chose. Vous n'avez rien qu'à demander, puis il n'y a aucune autre religion qui offre la grâce et le salut gratuit comme ça. Ça, c'est le christianisme, que le prix a été payé. Vous ne pouvez rien faire que de le recevoir par la foi au nom de Jésus-Christ. Je suis sauvé, pardonné, libéré, rempli de la puissance du Saint-Esprit et guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. Le roc a été frappé, il y a de l'eau qui coule juste pour demander. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein, ça mérite une bonne main d'applaudissement. Merci pour la grâce. La grâce. La grâce. Je ne le mérite pas puis j'ai rien qu'à demander. Ça, c'est la croix. C'est trop facile, Pasteur Mark. Oui, c'est vrai, c'est trop facile. Trop facile d'avoir le salut gratuit. Oh non, c'est pas gratuit. J'ai pas dit que c'est gratuit. C'est facile, mais pas gratuit. Un prix a été payé pour ça. Pensez jamais que la grâce ou le salut est gratuit. Oh non, c'est jamais. C'est pas gratuit. Il y a un très grand prix qui a été payé. La grâce n'est pas cheap. Elle n'est pas gratuite. Elle est très coûteuse. Non pour le récipiendaire, mais pour le donateur. Jésus a payé un grand, grand, grand prix pour la grâce. Alors, c'est gratuit pour nous, mais Jésus a payé le prix avec son corps et avec son sang. Nous avons choisi d'être à l'église ce soir pour célébrer le prix. Célébrer le prix qui a été payé. Merci que tu as payé le prix. Tu as laissé l'homme te frapper dans un lieu méchant afin que nous pouvons boire de l'eau vive, de la puissance du Saint-Esprit. C'est facile, mais c'est pas gratuit. La puissance de l'Esprit, c'est le don. Pas facile à comprendre ni accepter parce que nous avons grandi dans un système de mérite, récompense, acceptation basé sur l'accomplissement, l'apparence, les exploits. Ça, c'est la société aujourd'hui. C'est pas facile à comprendre, ça. Rien que pour demander. J'ai rien qu'à demander. Parce que dans le monde entier, il faut gagner, mériter l'apparence, les notes, l'éducation, l'argent, statut, classe. Il faut toujours gagner. Là. Mais je ne peux rien faire de... Non, c'est un don. Le don du salut, le don de l'esprit. On peut être gagné, ça ne peut pas être acheté, mérité, seulement reçu comme un don. Alors ce soir, si on ressent dans un lieu sec, aride, méchant, douloureux, j'ai besoin d'être rafraîchi, ressourcé, pardonné, guéri. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le roc était frappé il y a 2000 ans. Il ne sera pas frappé encore une autre fois. Il n'y a pas nos prix à payer, c'était payé. Alors, vous êtes dans un lieu méchant, un lieu difficile, vous avez une chose à faire. Demandez. 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 Et le Seigneur va vous donner la puissance de son esprit. Il va vous donner qu'est-ce que vous avez de besoin. Il va vous donner l'eau qui va couler dans le désert. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Il ne reste plus rien qu'à faire. Demandez. C'est ce que Jacques a compris. Je termine avec ces quelques versets. C'est ce que Jacques a compris. Écoutez juste une série de versets dans l'épître de Jacques au sujet de rien que demander. Juste demander. Parle comme Moïse. Je vais demander à Moïse. Parle. Parle à Jésus. Parle dans le désert. Demande et l'eau va couler. Jacques a compris ça, Jacques 4, 26. Et vous ne possédez pas, pourquoi? Parce que vous ne Parce que vous ne payez pas le prix. Non, parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez rien que demander. Demandez Jacques 1:5. Si quelqu'un d'entre vous manque, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un manque, ici Jacques parlait de la sagesse. Si vous regardez le verset dans votre Bible, il va dire, si quelqu'un manque la sagesse, parce que là, il parlait des gens qui avaient besoin de la sagesse, well, qui demande à Dieu. Mais vous pouvez insérer votre besoin, parce que c'est pareil. Si quelqu'un manque la vie, si vous manquez la passion, l'enthousiasme, la liberté, la présence de Dieu, la santé, le salut, la paix, la joie, l'amour, la sagesse, si quelqu'un manque, il n'y a pas de prix à payer, qu'il demande. Et s'il demande, au nom de Jésus, Dieu va vous le donner. Si vous avez un manque ce soir, c'est pour ça qu'on fait des soirées de l'esprit, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile, parce que si vous avez un manque, nous croyons à un Jésus qui donne généreusement et librement. Il donne de l'eau dans le désert, un lieu méchant et aride qui est rempli de manque et de besoins. Parle au rocher simplement et l'eau va couler. C'est ce que Jacques a compris. Sans condition, pas tout à fait. Il y a une condition ce soir. Demande, mais demande avec la foi. La foi. C'est Jacques qui continue ici. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque, qui demande à Dieu, mais Jacques 1:6, mais qui la demande avec foi, sans douter. Avec foi. Est-ce que vous croyez que le roc a été frappé? Combien croient à la crucifixion ici ce soir? Montrez-moi vos deux mains. Vous croyez qu'il y a 2000 ans, Jésus, le Fils de Dieu, a été crucifié? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus a payé le prix? Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'il est monté au ciel? Est-ce qu'il a envoyé le Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez dans les promesses de la parole de Dieu? Vous croyez que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il faut croire. Il dit, demande, mais demande avec la foi, sans douter. Je crois que Jésus, les promesses de Jésus sont oui, amen. Jésus a payé le prix. Je crois que je ne mérite rien de la part de Dieu. Mais si je demande avec foi, Dieu va m'accorder. J'ai rien qu'à parler. C'était quoi le reproche que Dieu a donné à Moïse en Nombre chapitre 20? Parce que vous m'avez pas cru. C'était un manque de foi. Moïse ne croyait pas que seulement parler au rocher, c'était pour marcher. Parce que la première fois, il a frappé. Alors, dans son incrédulité, il a dit, il y a quelque chose d'autre à faire que parler. Parler, c'est trop simple. Il faut que j'exprime un peu la colère. Là, puis il faut que j'exprime un peu le fait que je ne suis pas satisfait avec le peuple. Il faut qu'il apprenne. Il croyait pas que c'était parce que c'est trop simple. Et Dieu a dit, parce que tu m'as pas cru, Nombre chapitre 20, verset 12, t'as pas cru en mon nom, t'as pas cru dans ma parole, parce que tu disais, c'est trop facile. Alors, c'est l'incrédulité. L'incrédulité nous fait ajouter 10 règlements, 5 étapes, 12 principes. On dit, il faut toujours quelque chose d'autre à faire. Je suis pas assez sanctifié, je suis pas assez spirituel, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez connaissant. Dieu m'aime pas comme qu'il aime quelqu'un d'autre. Je mérite aucune bénédiction. Alors, ça, c'est l'incrédulité. Mais la foi dit tout simplement, je sais que je ne mérite rien, je sais que je ne peux rien faire de plus, Jésus a payé le prix, et maintenant j'ai rien qu'à demander par la foi, me voici Seigneur, je ne mérite rien, mais j'ai l'accès à la puissance et la plénitude et la personne de ton Saint-Esprit. Est-ce que le pantin amène à cela? C'est la foi. Il dit demande, mais demande avec la foi. Saisis la réponse. Parce qu'il dit, mais qu'il demande avec foi, Jacques 1:6, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. C'est fini. Quand on manque la foi, on est tassé d'un bord à l'autre. On est agité, on est instable, on chancelle, on a des hauts, des bas, des victoires, des défaites, on est découragé, encouragé. Puis il dit, on est tassé par nos émotions, on est victime de nos circonstances, on est tassé d'un bord à l'autre par l'ennemi. Il faut dire fini dans ma vie. Fini d'être tassé par mes circonstances, d'être d'un bord à l'autre, toujours une victime des situations puis mes émotions. Fini d'être agité par la tempête autour de moi. C'est fini. Je vais saisir la puissance du Saint-Esprit par la foi, sans aucun doute. C'est fini d'être en deux décisions. Je vais saisir la réponse par la foi parce que Jésus a pourvu pour moi sur la croix. Et je vais prendre ma position en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Fini d'être agité d'un bord à l'autre, toujours. Il prie avec foi. Jacques, il connaissait l'Évangile, Jacques. Il dit, demande. Mais demande avec foi. Et demande avec insistance. Jacques, chapitre 5. Même auteur, même écrivain. Il dit, demande, mais avec foi et insistance. Jacques 5, 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme avec les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes tentations que nous. Mais il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tombait point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit du fruit. Il dit, prie avec instance, prie avec la foi. Est-ce que la manière que je demande est importante? Oui, oui. On demande par la foi. On demande avec insistance. On demande avec patience. On demande avec passion. On dit avec insistance, comme il dit, pour dire, je sais que Seigneur, tu connais mes faiblesses, mes manquements, et je sais que je ne mérite rien. Mais je prie comme Élie a prié. La façon qu'on prie est aussi importante, la façon qu'on demande, que la demande même. Je termine avec ceci. Luc chapitre 11. Jacques le savait et Jésus le savait. Selon Jacques et Jésus, la façon qu'on demande, c'est rien que demander, mais la façon qu'on demande, c'est aussi important que la demande même. Jésus enseigne sur la prière, puis on termine avec cela. Le musicien peut s'approcher. Luc chapitre 11, écoutez ce que Jésus dit ici. Il répète un peu les mêmes choses que Jacques, ou Jacques répétait les mêmes choses que Jésus. Luc chapitre 11, quand il enseigne sur la prière, écoute ce que Jésus dit. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. L'humilité. Qui dit, j'ai rien à offrir. Je n'ai rien à offrir à mes enfants, j'ai rien à offrir à mes amis, j'ai rien à offrir ce monde, j'ai rien à offrir cette génération, j'ai rien à offrir la francophonie, j'ai rien à offrir les Québécois, il n'y a rien dans ma garde-robe, il n'y a rien dans mon armoire, j'ai rien à donner, j'ai rien. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, c'est fermé. Mes enfants et moi sont au lit. Je ne peux plus le lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout dont ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin. Jésus n'a pas dit ça pour rien. Il voulait qu'on apprenne quelque chose. Tout ce qu'on a de besoin. Pas quelques miettes. Tout ce qu'on a de besoin. Et moi, je vous dis, là, il fait l'application pour nous. C'est simple. Demandez et l'on vous donnera. Mais arrête pas là. « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Oui, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes. » C'est pas que Dieu a une mauvaise opinion de lui, de nous, mais il est honnête. Si méchant comme vous haïssez qu'on est égoïste par nature. Si vous, les égoïstes, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le pain quotidien, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, si vous demandez, si vous cherchez, si vous frappez, si vous avez un soif, si vous faites avec tout votre cœur, vous n'avez pas un prix à payer, c'était payé déjà. Jésus ne serait pas crucifié de nouveau. Le roc a été frappé il y a 2000 ans. C'est ce qu'on fait dans quelques instants quand on prend la communion. C'était déjà été payé. On n'a rien qu'à demander. Jésus a dit demande, demande, demande. Jacques qui dit demande, parle, demande. Et tout ce que vous avez de besoin, le Seigneur va vous donner. Parce que tout pourvu sur la croix par la puissance de son esprit. Puis son ami est venu à quelle heure? À l'heure du minuit. Qu'est-ce que ça représente, ça, l'heure du minuit? Ça représente un lieu méchant, un moment noir, un moment difficile. C'est l'heure du minuit. C'est urgent. C'est le dernier instant. C'est un lieu méchant. Puis dans le lieu méchant, où ce qui était vide, j'ai plus rien à donner. Les armoires sont vides. J'ai besoin de l'aide. Il dit à l'heure du minuit. S'il demande, il cherche, il frappe. Il dit, le Père céleste va donner en abondance le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va appliquer tous les bénéfices de Christ. N'est-ce pas ça que le pasteur Claude a dit ce matin, quand il a cité Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez quand? Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Combien sont prêts à chercher Dieu avec tout leur cœur, à demander avec tout leur cœur. Seigneur, aide-nous. Donne-nous du pain pour cette génération. Donne-nous quelque chose pour les enfants, pour cette génération, pour la jeunesse. Seigneur, pour la famille, j'ai besoin d'aide pour marcher victorieuse aujourd'hui, pour porter des fruits, pour avancer, pour renouveler ma passion dans la prière, Seigneur, pour marcher pur pendant l'été, pur pendant les pressions de la sensualité et la pornographie et les tentations de ce monde et les tentations d'abandonner, Seigneur. J'ai besoin d'aide. Je me ressens vide ce soir. J'ai besoin de la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-moi tout ce que j'ai de besoin pour marcher victorieuse, même dans un lieu difficile, aride et méchant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez rien que demander parce que le roc a été frappé puis il y a de l'eau qui coule dans le désert pour vous. Combien ont soif ici ce soir? Hein? Vous soif, soif d'un réveil. Soif de quelque chose. Vous êtes ici ce soir parce que vous avez un besoin. Combien ont besoin d'une guérison? Levez vos deux mains vers le Seigneur. Si j'ai besoin d'une guérison, Jésus a pourvu une guérison. Combien ont besoin d'une liberté? J'ai parlé avec un jeune homme ce matin qui a dit, Pasteur Mark, prie pour moi parce que j'ai la grande difficulté en ce moment, la grande pression de la tentation, la grande pression de la bière et les filles qui m'attirent et m'attirent. J'ai l'impression de tourner en rond et d'avoir des difficultés. Aide-moi, prie pour moi. Je veux prier pour ce jeune homme-là parce que c'est pas nécessaire de tourner en rond dans des airs comme ça. Il y a de l'eau pour ce jeune homme-là, pour l'aider, pour donner une passion puis un feu pour le Seigneur, pour donner la force de la résistance. Si vous avez besoin d'être libéré, délivré, la pureté, il y a de l'eau pour vous ce soir, tout pourvu à la croix. Puis peut-être que c'est juste d'être rafraîchi. D'être rempli du Saint-Esprit, on entend des messages merveilleux sur la puissance du Saint-Esprit les dimanches matins. Mais c'est le moment pour dire, Seigneur, je veux que ce soit une réalité dans ma vie. Si c'est votre prière, je vais vous demander de vous lever avec moi, tous ensemble, pendant que la musique joue doucement. Est-ce qu'on peut lever nos mains, nos voix vers le Seigneur, tous ensemble, avant de prendre la communion en mémoire de ce que Jésus a fait? Levons nos mains vers le Seigneur et nos voix vers le Seigneur. Et le Seigneur, je demande de l'aide, Seigneur. Je demande d'être rafraîchi. Je demande d'être ressourci, Seigneur. Je demande d'être libéré. Je demande d'être guéri. Je demande d'être pardonné. Il y a peut-être des personnes ici, vous rentrez dans l'église, vous avez l'impression d'avoir accumulé beaucoup de poussière sur vos pieds, la poussière de ce monde, la poussière des activités de la semaine, la poussière. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'être lavé, nettoyé, purifié. Il y a de l'eau pour vous ce soir. Il y a de l'eau pour vous. Il y a du pain à l'heure du minuit. Et du pain, pain pour donner, tout ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin ce soir, juste levez vos mains pour voir dans la prière. On va avoir un moment de prière, chercher la face de Dieu avant de rentrer dans la communion. On va juste chercher la face. Levons nos voix tous ensemble. Jésus a dit, demandez, cherchez, frappez. Demandez, cherchez, frappez. Il dit, si vous croyez, si vous priez sans aucune doute, si vous avez la foi, le prix a été payé. C'est la grâce, c'est la demande seulement. Jésus au secours, guéris-moi Seigneur, pardonne-moi, libère-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je crois que le prix a été payé. Je vais avoir un moment de prière avant de prendre la Sainte-Cène. C'est ce moment pour chercher la face de Dieu. Seigneur, remplis-moi Seigneur. Visite-moi. Je demande tout simplement. Je sais que je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Je suis indigne. Je sais que je ne mérite pas de l'eau dans le désert. Seigneur, je prie pour de l'eau ce soir. Rafraîchis-moi. Ressourcis-moi. Fortifie-moi. On va juste avoir un moment de louange, d'adoration, avant de prendre la Sainte Seine, avant de rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Et pendant qu'on chante, levons nos mains vers le Seigneur et nos voix. Et chantez-le. Le Seigneur va nous conduire dans ce chant de louange, d'adoration comme une prière. Laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie avant qu'on prenne la Sainte Seine en mémoire de ce que Jésus a pourvu pour nous. Chantez-le tous ensemble.
Quand j'ai besoin de paix,
quand j'ai besoin d'amour ou de paix, Seigneur,
dans mon cœur,
je sais que tu es là et tu es pris.
Quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là.
Merci pour ta grâce, Seigneur.
J'ai
merci
besoin
pour ta
d'espoir.
Grâce.
Quand j'ai besoin d'espoir,
j'ai besoin ce soir, le Seigneur est là.
Quand j'ai besoin de
quelqu'un qui a besoin de grâce ici ce soir, le Seigneur est là.
Quand j'ai besoin d'une autre chance,
combien ont besoin d'une autre chance, le Seigneur nous donne une autre chance.
Seigneur, tu es là.
Chantez-le tous ensemble comme une grande chorale.
Oh Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là, tu es là, Seigneur, Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là, oui Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là.
Besoin d'espoir, la grâce.
Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce pour continuer, quand j'ai besoin d'une autre chance, j'ai besoin de toi, Seigneur, tu es là.
Seigneur, tu es là. J'ai rien que demandé, chante-le tout ensemble.
Oh Seigneur, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur.
Tu es là. Avant de prendre la Sainte Seine, je vais avoir un moment de prière. Ça va être un moment de prière précis, tout de suite, mais on va avoir un moment de prière corporelle. Les personnes qui ont besoin de miracles ce soir, là, vous êtes ici, vous dites, ça c'est, moi je vis dans un lieu méchant en ce moment-là. C'est comme les serpents brûlants, les scorpions, ça. C'est douloureux, c'est une mauvaise nouvelle, une difficulté dans ma vie, l'angoisse. Moment sec, c'est comme le désert, montagneux, aride, difficile, c'est la fatigue. J'ai besoin d'un miracle ce soir. Bon, Jésus a pourvu les miracles sur la croix. Jésus a pourvu, le roc est frappé, il y a de l'eau pour vous ce soir. Pour tous vos besoins, tous vos besoins. Jésus était clair là-dessus. J'ai besoin de miracles. On va avoir un moment de prière pour vous. Ça va juste durer quelques minutes. Et après ça, on va le célébrer la croix ensemble avec la Sainte Seine. Mais si vous avez besoin de miracles ce soir, je ne sais pas si c'est physique, une guérison, liberté, une délivrance, quelque chose dans votre vie, ce n'est plus nécessaire de vivre dans ce lieu méchant. Parce que dès qu'on parle au rocher, il y a de l'eau qui coule, puis nous croyons la puissance du Saint-Esprit pour rafraîchir et vous visiter ce soir. Si vous avez besoin de miracles, juste quittez votre place et juste venir ici en avant, tout de suite. Juste levez vos mains vers le Seigneur. Je ne sais pas si c'est 10 personnes ou 100 personnes, peu importe. Si vous avez besoin de miracles ce soir, juste venez, levez vos mains vers le Seigneur et commencez à prier. N'attendez pas que moi je prie ou un autre prie. Priez-vous. Importune le Seigneur. Avec passion, frappe, demande, cherche. Et le Saint-Esprit est là pour vous donner pour tous vos besoins. C'est l'heure du minuit pour quelques personnes ici. C'est l'heure du minuit. C'est le dernier moment. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance pour votre vie. Ça fait trop longtemps. Vous vivez dans votre style de vie. Vous tolérez le péché, le compromis. L'ennemi attaque votre vie et votre famille. Et peut-être c'est l'heure du minuit. S'il n'y a pas quelque chose qui se passe ce soir, ça va être trop tard pour ma famille. Trop tard pour ma vie spirituelle. J'ai besoin d'aide. Levez vos voix et vos mains vers le Seigneur. Et dites, Seigneur, j'ai besoin de miracles. J'ai besoin du pain à l'heure du minuit. J'ai besoin de miracles ce soir. Je demande tout simplement. Je demande selon ta parole. Je demande selon ta promesse. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous le croyez. Parce que vous avez la foi. Vous croyez qu'à la demande, demande, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ou vous demandez mal. Qu'on soit pas nonchalant, indifférent, incrédule. Dieu a dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru, vous avez manqué la cible. Croyez ce soir au nom de Jésus. On croit pour vous. Levons nos mains et nos voix tous ensemble. Ceux qui sont dans les chaises, ceux qui sont dans le sanctuaire, étendez vos mains vers ici en avant et commencez à prier. Intercédez. Priez pour ces personnes. Priez la grâce. Priez un miracle. Priez une visitation de la puissance du Saint-Esprit. Priez un moment de miracle au nom de Jésus. Fleuve d'eau vive dans les airs. Le fleuve qui coule dans les airs. C'est un moment de l'Esprit. C'est un moment divin au nom de Jésus. Devons nos voix tous ensemble. Demande, frappe, cherche. Le Seigneur va donner le Saint-Esprit pour tous les besoins. Comment il y en a des hommes qui prient pour leur famille, des hommes qui prient pour leur vie, des hommes qui prient pour leur spiritualité, et des femmes qui prient pour leurs enfants, pour leurs ados, pour leur mari. Celles qui prient pour passer à travers. Libère au nom de Jésus. Libère, Seigneur, dans les pensées. Libère dans l'intelligence. Libère dans les émotions au nom de Jésus. Que l'eau coule dans les yeux arides. Que l'eau coule dans les lieux méchants au nom de Jésus. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, on approche la table. On approche la croix. Oh, par la grâce, par la grâce, par la grâce. Que soit votre miracle au nom de Jésus. Seigneur, c'est un moment pour arrêter. C'est un moment pour s'examiner, pour saisir la signification et la puissance de la croix. On le fait ensemble, Seigneur. Saisis, réfléchis. Merci pour ta grâce, la faveur non méritée. Merci qu'on reçoit ce qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas ce qu'on reçoit. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là? Le Seigneur est présent. Levons nos mains, nos voix tous ensemble au moment de prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, on approche ta table ce soir. On est ici devant toi, en avant, Seigneur. Avec nos voix levées, Seigneur, vers toi, nos têtes levées, nos yeux levés vers toi et nos mains. Dire au secours, Seigneur. Reconnais nos grands besoins. Reconnais qu'on n'a plus rien à donner. Qu'on frappe à la porte, on demande et on cherche. Par la foi, nous croyons que tu as payé le prix. Nous croyons que le roc a été frappé dans le désert. Nous croyons qu'il y a de l'eau qui coule dans les lieux arides et les lieux méchants ce soir. Au nom de Jésus, Nous croyons que tu vas donner tout ce que nous avons besoin. Et ce soir, Seigneur, je réclame guérison pour les malades au nom de Jésus-Christ. Guéris, Seigneur. Guéris. Je réclame la santé divine. Guéris tous les os, tous les fibres, Seigneur, chaque muscle, tous les nerfs. Purifie le sang. Je prie au nom de Jésus-Christ. Sois pourvu une guérison à la croix. On le croit, Seigneur. Par ta grâce, libère de l'emprise du péché, l'emprise satanique, Seigneur, l'emprise, Seigneur, de la pornographie, ou la drogue, ou l'alcoolisme, Seigneur, ou la colère, ou la haine, ou la violence, ou la rancune, au nom de Jésus-Christ. Libère, Seigneur, les cœurs, je prie. Et Seigneur, rafraîchis, rafraîchis-nous par ton Saint-Esprit. Rafraîchis-nous avec l'espérance. Rafraîchis-nous avec la joie. Rafraîchis-nous, Seigneur, avec un avenir, je prie. Bénis, sanctifié, rempli de la puissance de ton Saint-Esprit. Et on réclame de l'eau dans les lieux méchants. On réclame, Seigneur, le fleuve d'eau vive pour le Québec, fleuve d'eau vive pour Montréal, et pour la Rive-Sud, et pour la francophonie, et pour l'Église, et pour les enfants, et pour les ados, et pour les hommes et les femmes. Un fleuve d'eau vive, au nom de Jésus, un fleuve dans le désert. Il n'est plus nécessaire de vivre dans les lieux méchants. Seigneur, bénis, restaure, que ce soit des moments de point tournant à la croix ce soir, des moments de point tournant à ta table, je prie, Seigneur, des moments de liberté, on le réclame et on le reçoit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la grâce, on demande avec foi et insistance, au nom de Jésus, Seigneur, fleuve d'eau vive.
Fleuve d'amour s'étend sur moi. Là, je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai revenir. Je suis heureux de te connaître. Je lèverai mon main vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour. L'ange tournerait mon cœur et te laisserait maguire. Je suis heureux de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour.
Merci pour ta grâce.
Merci pour ton
amour.
Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour.
Merci Seigneur pour la faveur au désir.
Je chanterai ton amour pour toujours.
On va le rechanter encore une autre fois en préparant nos cœurs pour la communion. On fait ça un peu différent ce soir. On termine avec la Sainte Cène et un moment de réjouissance pour la croix. Pendant qu'on le chante, je vais demander tous ceux qui sont ici en avant juste de retourner à votre place, que personne quitte encore. Ça nous prend quelques instants. Mais on veut bien prendre la communion comme la Bible nous enseigne à la lumière de ce qu'on a entendu sur la croix et la grâce et la faveur de Dieu. Chantez-le encore une autre fois tous ensemble. Levons nos voix, nommez vers le Seigneur et chantez-le en préparant nos cœurs pour la communion.
Fleuve d'amour s'étend sur moi. Là, je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. Je lèverai ma main vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours.
sont heureux pour l'amour de Dieu? Combien sont heureux pour la grâce de Dieu? Combien sont heureux que le prix a été payé? Merci Seigneur pour la croix. Merci pour la grâce. Merci que tu as tout pourvu dans les airs, les eaux dans les airs pour nos besoins. Vous pouvez vous asseoir pendant que la musique joue doucement le louange d'adoration. Je demande à l'équipe de la communion d'avancer. On va prendre la communion en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Vous connaissez le passage dans 1 Corinthiens, chapitre 11, quand l'apôtre Paul donne les instructions pour ces moments-là. Puis dit de le faire comme il faut, de prendre notre temps, puis de le faire comme il faut, puis réfléchir vraiment à ce que Jésus a fait. Puis pendant qu'on distribue les éléments, je vais vous demander juste de garder le pain et le vin dans vos mains. C'est ouvert à tout le monde, soyez membre de l'Église ou pas. Vous, si vous connaissez Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes invité à partager ces éléments avec nous, selon les Écritures, en mémoire de ce que Jésus a fait. Mais juste gardez, avant de manger, on va manger et boire tous ensemble. Alors, pendant qu'il distribue, juste de le garder entre vos mains. Et on peut commencer avec les distributions tout de suite pendant que je lis les Écritures. L'apôtre Paul a dit, quand j'ai reçu du Seigneur, c'est une révélation que j'ai reçue, ce que je vous enseigne, ça vient de Jésus direct. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour ça que celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, d'une façon légère, d'une façon de ne pas comprendre la signification, d'une façon indigne, comme si c'est rien qui est arrivé, il sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Il va faire comme Moïse, il va manquer la cible, il va manquer. Que chacun d'eux s'éprouve soi-même, qu'il s'examine sa foi, ce que je crois, comment je me comporte à la lumière de la croix, ce que je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait, qu'on s'éprouve dans le moment d'examen. Qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, le Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde ainsi. Mes frères, lorsque vous réussissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. N'abordera pas dans les instructions pour le prendre comme il faut, avec réflexion, contemplation. Merci pour la grâce, Seigneur. Je ne le prends pas indignement. Je ne le prends pas avec impatience. Je ne le prends pas comme une rite religieuse. Mais je veux le manger et boire d'une façon digne, avec reconnaissance. Reconnaissance que tu as tout payé pour moi. Reconnaissance que j'ai rien à demander. Le salut, c'est facile à recevoir, mais c'est pas gratuit parce que tu as payé un grand prix. C'est gratuit pour moi à cause du prix que tu as payé. Prends, s'examiner, se prouver. Le prendre comme il faut. Avec action de grâce, avec réjouissance. Pendant qu'on s'examine, oui, je crois. Je crois. Je reçois ma guérison, pardon, ma liberté. Je reçois la plénitude, la personne et la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de vivre dans un lieu méchant. Je refuse de tourner en rond dans le désert à la lumière de ce que Jésus a pourvu sur la croix. On va s'examiner puis contempler la croix ce soir. Quelques personnes qu'il faut dire qu'il faut avoir un saint refus ce soir. Je refuse d'être agité, hein, d'un bord à l'autre, un peu sur les flots, sur la mer, par les vagues. Je refuse d'être victime de la tempête autour de moi. Je refuse. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Vainqueur, plus que vainqueur. Je refuse d'être tassé d'un côté, d'un bord à l'autre. Je refuse de savoir vivre ma vie toujours les hauts, les bas, les hauts, les bas. Je viens pas, j'abandonne, je m'accroche. Défaite, victorieux. Je refuse d'être agité comme ça, poussé d'un côté à l'autre. Je demande par la foi, la lumière de ce que Jésus a fait. Il a pourvu tous mes besoins. Seigneur, donne-moi du pain. Donne-moi du pain pour les autres. Du pain, Seigneur, le pain quotidien, la puissance de ton Saint-Esprit. Je me réjouis pour ce que tu as fait pour moi. On prie, on contemple avant de boire et avant de manger. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? C'est ce qu'on va faire. manger, on va boire ensemble à quelques instants. Puis on va terminer la réunion juste avec un moment d'action grâce envers le Seigneur. D'action grâce, de réjouissance. Dis merci pour la croix. Merci pour le roc qui était frappé. Merci qu'on peut avoir ce moment de l'esprit parce que Jésus a tout pourvu. C'est-à-dire, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est Jésus dans la nuit où fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. Nous vont ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Juste passez votre coupe à la personne à côté de vous afin qu'il puisse le ramasser. Savez-vous comment qu'on va terminer ce moment de Sainte-Seine? On va terminer avec une bonne main d'applaudissement au Seigneur, avec un cri de joie pour la croix. Mets nos mains ensemble. On applaudit la croix. On applaudit le Seigneur. On applaudit. Merci Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.